Mesdames, Messieurs, bonjour, merci d'être à l'écoute du forum du studio Kalangou au micro de Mustapha Mamansani de la radio Gaskia de Zender, une des radios partenaires du studio Kalangou dans la ville de Zender. Le forum, c'est un rappel, est diffusé via un réseau dynamique de 46 radios partenaires à travers le Niger. À Zender, vous écoutez ce forum sur les ondes de la radio Gaskia 89.5 MHz et la radio Chukura 105.5 MHz. Le forum d'aujourd'hui a pour thème « Recrudescence de la délinquance dans la ville de Zender ». Ce forum tournera autour de trois axes suivants, à savoir les causes de la délinquance à Zender, les incidences du fléau sur les activités économiques à Zender et enfin les perspectives pour une meilleure gouvernance. Pour en discuter, nous avons invité Elhaj Oumar Issa, il est du conseil de sages de Zender, Dr Abdou Harou, géographe urbain, expert sur les questions de la délinquance, Amadou Dankwari, il est sociologue et en même temps acteur de la société civile, le commissaire Roua Hamma Abdourahmane, il est commissaire de la police judiciaire de Zender. La délinquance et l'extrémisme violent dans nos villes sont aujourd'hui au cœur des thématiques qui mobilisent les décideurs politiques et la communauté internationale. Région la plus peuplée du Niger, Zender fait face à une forte croissance démographique et doit donc répondre aux besoins grandissants d'une jeunesse représentant plus de 70% de la population, selon les chiffres de l'Institut national de la statistique datant de 2015. Cette démographie, combinée à l'un des taux de scolarité les plus bas du pays, entraîne une grave crise de l'emploi et la difficulté d'insertion sociale d'une masse importante de jeunes adultes et adolescents. La région de Zender enregistre de ce fait une criminalité croissante, le vol sous toutes ses formes malgré les efforts des autorités investies de la puissance publique. Le décor étant planté, je commence avec vous, docteur. En tant que spécialiste, quelles sont, selon vous, les raisons qui peuvent expliquer la criminalité grandissante à Zender?
Quand on parle de criminalité, de délinquance, il y a des causes qui sont communes et il y a des causes qui sont spécifiques. Alors, les recherches que nous avons effectuées au niveau de la ville de Niamey nous permettent également de nous prononcer sur la question de délinquance et de la criminalité au niveau de la ville de Zender. Mais je dois également préciser que, partant des travaux que j'ai menés donc au niveau de la ville de Niamey, je ne peux pas être qualifié d'expert, comme vous le dites là, mais je peux me prononcer sur les questions de la criminalité et de la délinquance, parce que aujourd'hui donc je me tourne plus vers les questions de la gouvernance urbaine. Maintenant, pour revenir au sujet du débat, en termes de cause de la délinquance, on peut voir ça à plusieurs niveaux. D'abord au niveau du développement urbain lui-même, au niveau socio-économique, au niveau culturel et au niveau institutionnel. D'abord, en ce qui concerne le développement urbain, au niveau de notre continent, surtout au niveau des pays qui sont au sud du Sahara, là, les villes connaissent aujourd'hui une croissance très accélérée. Et cette croissance accélérée, tant du point de vue spatial que démographique, elle est connue de tout le monde, que c'est une croissance non accompagnée. Non accompagné, c'est-à-dire tout simplement que c'est une croissance qui n'est pas suivie et de développement. Ce qui fait qu'elle génère donc un certain nombre de contraintes, un certain nombre de dysfonctionnements. Entre autres dysfonctionnements, on peut relever par exemple le chômage, on peut relever le sous-emploi, on peut également relever la précarisation des conditions de vie des citadins. Et là où on parle de sous-emploi, de chômage, de précarisation des conditions de vie, alors c'est des conditions qui sont favorables donc à la pratique délinquante ou à la criminalité. Du point de vue social, aujourd'hui par exemple, tout le monde sait qu'en milieu urbain, du point de vue de la famille par exemple, lorsque on a des familles qui sont paupérisées, qui sont fragilisés économiquement parlant. Alors, au niveau de la famille, il y a un faible contrôle parental sur la jeunesse. Et lorsque, par exemple, la jeunesse n'est pas sérieusement contrôlée, alors il peut y avoir des dérives. Au niveau de notre société traditionnelle, il y a des valeurs qui permettent d'intégrer l'individu au sein de la société. Mais en milieu urbain, cette intégration la pose problème. Pourquoi? Parce que en ville, l'intégration elle est difficile, surtout dans un contexte où la proportion de pauvres donc elle est importante et où ce contrôle, le contrôle social dont j'ai parlé tantôt là, est très faible. Donc le rôle de la société dans l'intégration sociale, c'est un rôle qui s'affaiblit. Et là également, et dans ce contexte-là, alors ça peut créer les conditions de la délinquance, les conditions de la criminalité. Et du point de vue économique, hein, avec un peu de recul, la crise économique qui a frappé la plupart des pays africains et surtout les pays au sud du Sahara, alors les effets des ajustements structurels ont contribué à fragiliser nos États, économiquement parlant. Et cette situation s'est beaucoup ressentie répartis au niveau des villes. Ça a contribué à fragiliser non seulement l'État, qui a une faible capacité d'investir dans les différents secteurs économiques, et ça a fragilisé également les ménages. Et lorsque vous avez un contexte tel que celui de nos sociétés est fragilisé par les effets des ajustements structurels, où l'État lui-même étant fragilisé, les crises ont réduit ses capacités budgétaires. Ce qui fait que l'investissement des différents États au niveau, par exemple, des différents secteurs économiques, ça s'est beaucoup affaibli. Au niveau de l'éducation, on peut le constater. Au niveau de la santé, on peut le constater. Au niveau de question de l'emploi, on peut le constater. Et même au niveau de la sécurité. Récemment, un chercheur a fait comprendre que si, au niveau de nos pays, il y a des problèmes pour assurer la sécurité des populations, c'est que les États, depuis la crise économique là, étant fragilisés économiquement, alors ils n'ont pas la capacité d'investir dans la sécurité pour faire face aux problèmes sécuritaires. Ça, c'est connu de tous. Ensuite, du point de vue culturel, il faut voir les choses à deux niveaux. Dans un premier temps, nous avons une jeunesse qui est, du point de vue quantitatif, la jeunesse, elle est importante, mais elle est faiblement encadrée. Parce que quand on va faire le tour de la ville de Zander, là, on va se rendre compte que les espaces affectés aux loisirs, destinés aux enfants, ils sont rares. Il n'y a pas suffisamment d'espaces de loisirs. Et parfois, donc, faute de ces espaces de loisirs-là, voilà, la jeunesse, elle est là, assise, elle veut s'épanouir, mais il n'y a pas les moyens.
Elle n'a pas là où déverser
ça. Voilà, ça aussi, c'est un aspect. Et un autre aspect, du point de vue culturel, c'est l'école. L'école modèle occidental, c'est une école qui n'est pas bien adaptée à notre contexte. Pourquoi ? Parce que c'est un système qui fait beaucoup de déchets, entre guillemets. Et vous savez très bien, ceux-là qui quittent l'école, et parfois, par exemple, quand ils n'ont pas d'activité, alors là également, ce sont des potentiels délinquants. Ouais. Ils développent une certaine frustration parce que l'école les a mis de côté, les a exclus. Faute d'un palliatif, c'est possible qu'il y ait dérive, qu'on verse donc dans la délinquance. Même la sécurité a pris un coup. Imaginez, par exemple, les villes grandissent, mais du point de vue, par exemple, des institutions, telles que la police, par exemple, la police n'a pas suffisamment les moyens pour faire face au problème de la sécurité. Et même du point de vue personnel, lorsque par exemple les villes grandissent, il faut qu'il y ait une certaine adéquation. Les villes grandissent, il faut revoir également le nombre de policiers qui doivent encadrer cette question-là. Et il faut également voir le niveau de leur équipement. Si les États sont faibles, ne sont pas en mesure d'investir pour équiper sérieusement la police ne peut pas faire face à cette question d'insécurité. Et les délinquants eux-mêmes, ils sont conscients que la police a des moyens faibles, donc ils peuvent oser.
D'accord. Je reviens à vous, Monsieur Amadou Dankwari, vous êtes sociologue et acteur de la société civile. L'extension rapide de la ville et le contexte économique difficile peuvent-ils être des raisons pour la délinquance à Zender?
Le chercheur a très bien expliqué le phénomène. Nous, on n'a fait que constater et on a vu le développement de la ville de Zender. Il y a un certain nombre de choses maintenant qu'on est en train de constater qui ont trait à la délinquance. Et cela est dit effectivement d'abord à l'accroissement de cette ville et aussi à la démographie galopante qui caractérise d'une manière générale à notre pays. Le Niger est l'un des pays qui a le plus fort taux de natalité, 3,9%, n'est-ce pas? Donc c'est l'un des taux les plus élevés. Et vous savez que s'il y a cet accroissement grandissant, il faut qu'il y ait un accompagnement. Ouais. Et l'accompagnement, c'est ça qui fait défaut en termes, ne serait-ce que des services sociaux de base d'une manière générale. Si elle n'a pas ça, ça va du soi à ce qu'un certain nombre de choses lâchent, notamment la question du contrôle de la famille aux enfants. Vous voyez que maintenant le pouvoir parental se désagrège du jour au jour et vous voyez que l'éducation qui doit être l'une des pièces maîtresses pour développer l'intellect de l'enfant et l'amener à être inséré dans la société n'est pas bien pratiquée dans une certaine mesure. Et c'est pourquoi on constate que les enfants sont là dans la rue et il y a un certain nombre de choses que nous, on n'a pas l'habitude de voir, notamment la criminalité. Et à Zender, si on regarde ce qui s'est passé ces derniers mois ou ces derniers jours, vous avez vu des gens qui partent pour poignarder et tuer. Vraiment ça, c'est des choses qu'on voit dans les films de Hollywood, mais malheureusement, on constate que ça vient chez nous. Ça doit interpeller tout le monde. Et cette question, c'est une question qui engage tout le monde et les chercheurs et les pouvoirs publics et la société, d'une manière générale, on doit essayer de voir comment y remédier à ce fléau. C'est un véritable fléau et les causes ont été détaillées par les chercheurs. Je ne peux pas revenir là-dessus pour ne pas faire de répétitions, mais on ne fait que constater vraiment que le phénomène, c'est un phénomène qui inquiète la population.
Monsieur le commissaire, quels sont les différents délits qui impliquent les jeunes ici à Zender?
Dans l'exercice quand même quotidien de nos activités, on constate une fréquence, notamment des vols simples, vols aggravés, les vols de motos, vols de bétail et vols de cellulaires qui est un quotidien pour tout le monde. Il y a les homicides, tantôt volontaires et involontaires. Nous avons aussi des cas de viols. Rien que pour l'année 2020, concernant les statistiques au niveau de la police, nous avons recensé 13 cas de viols. C'est beaucoup pour la ville. Et pour les cas d'homicides, en 2018, on a eu 2 meurtres, 0 assassinat. Mais en 2019, on a eu 6 cas de meurtres, 3 cas d'assassinat. Donc, du point de vue de la délinquance, quand même, elle est en croissance. Et ça peut être dû au phénomène de Fada et Palais, comme l'expert a dû à le soulever. Il y a un manque d'espace de loisirs à Zender, ce qui fait que les jeunes se retrouvent autour des FADA et ces FADA constituent des écoles de délinquance. C'est dans ce milieu que les enfants apprennent à fumer, rentrent dans l'alcoolisme, les petits larcins par-ci, par-là, et un an, deux ans, ils deviennent des véritables malfrats et des bandes organisées.
Mais comment jugez-vous l'ampleur donc des crimes ici à Zender?
Bon, par rapport à l'ampleur, ces deux derniers mois, on peut dire qu'il y a ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a une recrudescence des vols violents. Et ça, avec tous les efforts que les FDS, de façon générale, ont eu à faire, nous sommes venus à bout de ce phénomène. Parce que les trois cas qui ont été recensés au cours de l'année 2021 ont tous été élucidés. Donc, pour ce qui concerne les statistiques, surtout en matière de vols, c'est en constante augmentation, notamment les vols simples, les vols aggravés, c'est les vols qui sont faits avec une ou deux circonstances. Relativement aussi le cas des homicides, surtout volontaires. Donc rien qu'en début d'année, nous avons 3 cas, alors que la moyenne est de 5 cas par an à Zender.
Nous sommes au deuxième mois seulement.
Voilà.
Alors, comment expliquez-vous ce à quoi nous assistons de nos jours et où situez-vous les responsabilités?
Les responsabilités se situent à plusieurs niveaux, Mamassane. Quel niveau d'abord? Il fut un temps, au moins lui, il est au courant, qu'on a eu des responsables de l'éducation où, de 2013 à 2016 ou 2017, chaque année, on renvoyait plus de 15 000 à 20 000 élèves. Alors, c'est au beau monde là où il va. Il faudrait qu'il s'occupe. On a beau dire à qui de droit pour qu'on trouve un moyen de les occuper, personne n'a réagi. Donc ça, c'est un des aspects. L'autre aspect, c'est la grande pauvreté. Et cette pauvreté est venue tomber du temps où il y a eu un moment où il n'y avait pas de salaire. Tout le monde s'est débrouillé. Les hommes partaient prendre les tapis de leurs femmes pour aller vendre ou les tasses ou des choses comme ça. Ça, ça a contribué beaucoup. Les hommes sont devenus impuissants. C'est les femmes qui dirigent, c'est les femmes qui font tout, puisque c'est elles qui cherchent de quoi à manger. Donc ce temps-là a fait que vraiment les choses ont évolué négativement. Maintenant, les médias, c'est beau quand on fait des choses qui intéressent, mais aussi c'est parfois mauvais quand on présente aussi ce qui se passe ailleurs avec les acteurs qui se font connaître, qui se font voir. Tout ça là, on contribue justement à agrandir justement ce phénomène. Quand on va avoir à recruter, qu'on proportionnalise les effectifs ou les quotas qu'on doit affecter. Comme l'a si bien dit tous ceux qui sont autour de cette table là, que la démographie est galopante à Zender. Et rien ne se fait pour pouvoir au moins essayer d'espacer ces naissances-là, ou au moins essayer de faire les prévisions qui permettent justement d'arrêter. Même ceux qui sont censés vraiment nous aider dans ce sens-là, ils ont rendu le tablier. Parce que personne, rien ne se fait pour pouvoir maîtriser. Si on dit, ah non, toute bouche que Dieu ouvre, il la donne à manger. Bon, mais seulement il peut la donner du mauvais. Si même il donne.
C'est clair. Docteur, je reviens à vous. Quels sont les endroits les plus exposés à cette criminalité dans la ville de Zender et à quoi est dû cet état de fait?
Avant d'aller à ça, je voudrais encore préciser et du point de vue des causes. Lorsque, par exemple, comme a dit monsieur le commissaire, la consommation de la drogue, par exemple, en elle-même, c'est un acte de délinquance. Et lorsque on est désœuvrer et qu'on s'adonne à la consommation de la drogue. Donc, ceux qui consomment de la drogue, ils sont potentiellement des criminels. Ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect, c'est du point de vue culturel. Lorsque, par exemple, au niveau d'un pays comme le nôtre, où les films qui sont visionnés, par exemple, par nos enfants, ne sont pas contrôlés. Alors, la violence, par exemple, que les enfants voient tous les jours à travers l'écran de la télévision, alors ça banalise le crime. Et certains apprentissages se font donc à travers les films de violence que visionnent les enfants et ça influence les comportements des enfants. Voilà, et maintenant pour revenir à votre question, tous ceux qui sont, même au niveau de la ville de Zander que je n'ai pas étudié, ce sont...
Je précise, docteur, que vous avez encadré un mémoire sur la délinquance à Zander.
Oui, c'est ça peut-être ce que j'ai fait au niveau de la ville. Voilà, j'ai encadré un étudiant qui a soutenu sur cette thématique la délinquance de la ville de Zander. Voilà, son étude a porté sur un certain nombre de quartiers dans le souci de faire des comparaisons. Mais ce n'était pas dans le souci de détecter les quartiers les plus affectés. Mais puisque à travers les causes que nous avons énumérées par-ci, par-là, là, alors lorsque, par exemple, on parle de pauvreté, certainement, il y a des quartiers, par exemple, qui sont plus pauvres que d'autres, où la proportion de la jeunesse sans emploi est plus importante. Lorsque, par exemple, vous avez des quartiers comme Karakara, où, du point de vue de l'emploi, du point de vue de l'encadrement de la jeunesse, à tout point de vue, les parents sont des parents très fragilisés. Non seulement ils ne peuvent pas exercer un certain contrôle sur leurs enfants, mais la pauvreté est là. Donc, ce n'est pas étonnant qu'au niveau de tel quartier, qu'il y ait un nombre important de délinquants ou de criminels. Pourquoi ? Parce que le fait d'abandonner, par exemple, un quartier, comme l'a dit Elhaj, lorsque, par exemple, un quartier ou une population se sent marginalisée, se sent exclue des réalités ou de l'économie, par exemple, alors elle est frustrée. Et cette frustration-là peut conduire à des comportements de déviance. Au niveau de la jeunesse, par exemple, il y a la tentation en ville. Et le jeune ne résiste pas parfois à la tentation. Les jeunes veulent à tout prix avoir une moto, avoir un cellulaire, par exemple, d'un certain prix. Quand on est désœuvré, on n'a pas les moyens, les parents n'ont pas les moyens, alors on est tenté d'aller prendre donc des voies pas très correctes là pour acquérir donc ces moyens-là.
Amadou Dankwari, la même question pour vous. Quels sont, à votre sens, les quartiers les plus exposés à cette criminalité dans la ville de Zander et à quoi c'est réduit cela?
Donc, si on regarde la ville de Zander, on voit les quartiers vraiment où on rencontre assez de délinquants, ce sont les quartiers périphériques. Parce que, vous savez, l'immigration qu'effectuent les gens viennent à Zander ou dans les gros centres urbains en guise d'avoir de petits métiers et malheureusement, ils finissent par s'installer dans la ville et là où ils s'installent, c'est dans les quartiers périphériques. Et dans ces quartiers périphériques, vous allez voir que dans une maison, on peut avoir une population à peu près de 10 à plus individus ou bien 2 ménages ou plusieurs ménages qui cohabitent, c'est une promiscuité qui s'effectue. C'est là, les parents n'ont pas quand même vraiment les moyens pour que les enfants soient dans la maison. Les enfants sont obligés de sortir et une fois que les enfants sont dehors, c'est ce développement de la délinquance qui va se faire. Et donc, quand on prend le quartier comme Karakara et le quartier et autres, en dehors même des quartiers périphériques aussi, il y a des quartiers à l'intérieur même de la ville. Quand vous prenez Kwalia, c'est un ancien quartier de la ville de Zander. Mais quand même, c'est là où il y a un véritable foyer de délinquants. Quand vous prenez les quartiers chauds, là, c'est un quartier connu. Quand vous prenez Trejams, tout le monde sait que là, c'est même le foyer ou bien tout celui qui vient, il s'y rabat là-bas dans ce quartier où il va trouver et ses amis, et voilà. Donc, en dehors des quartiers donc périphériques, il y a aussi des quartiers à haute intensité de la criminalité et de la délinquance. Tout le monde les reconnaît. Et là, c'est même l'essentiel de la ville. Vous voyez, la ville, à terme d'équilibre, ça ne peut pas fonctionner tant qu'il n'y a pas ces genre de quartiers. Mais quand même, on doit essayer de les contrôler très bien, les quartiers que j'appelle les quartiers chauds, Trinjams et autres. Maintenant, il y a un certain nombre de phénomènes qu'on voit maintenant. Auparavant, on ne voit pas les filles consommer de drogue. Mais maintenant, ici à Zander, vous allez voir, une fois sorti la nuit, vous allez voir que c'est même les jeunes filles qui s'adonnaient à ce genre d'activité. Ça incite même les garçons à dire, mais voilà une petite fille qui boit, toi tu es incapable. Donc ça amène vraiment une sorte de contagion et un défi avec ces défis de la jeunesse. Et docteur a dit le phénomène de la tentation, ça s'accentue et voilà, ça amène vraiment à des banditismes, à des vols à main armée, à toute la criminalité de toutes sortes. Et là, vraiment, c'est ça qu'il faut mettre l'accent.
Commissaire Abdraman, même question, quelles sont les informations complémentaires que vous voulez apporter à propos des quartiers ou zones les plus exposées à la délinquance ou à la criminalité?
En termes de réflexion sur ces zones, moi, je dirais que c'est Karakara, Tudunjamus, les quartiers périphériques, Kolia, il y a l'autogare. Bon, Tudunjamus, tout le monde sait que dans le domaine de la prostitution, il y a toujours les délinquants qui sont là. Donc les autres quartiers, les délinquants s'y trouvent refuge parce que la collaboration avec les FDS, elle est faible. Et si les bandits se réfugient dans les quartiers périphériques, c'est parce que peut-être durant toute la journée, il est difficile de rencontrer quelqu'un qui les connaît, qui va dire « Ah, un tel, il a dû commettre une infraction à tel niveau. Ah, il est recherché, je vais informer. » Donc c'est en fonction vraiment de la collaboration de la population. Parce qu'à Karakara, si vous cherchez quelqu'un à Karakara, il est difficile de le trouver. Au contraire, c'est même des nids. Parce que Toudou et Karakara, c'est des nids pour les délinquants. Celui qui commet sa forfaiture dans un quartier, au centre-ville, il se réfugie.
Docteur, quelles sont les incidences de ces violences des jeunes sur le développement socio-économique?
Les incidences sont aussi multidimensionnelles. Hein, parce que imaginez au niveau individuel, au niveau d'une famille, par exemple, les victimes d'un acte de criminalité, c'est une grande désolation que ça crée au niveau de la famille. Et lorsque, par exemple, les criminels s'emparent des biens d'une famille, c'est la ruine du point de vue économique. Donc, socialement, les victimes de la violence, de la criminalité ou de la délinquance, ça crée une certaine frustration au niveau de ces familles-là. Et certaines familles, suite à cet acte de criminalité, donc, parfois, imaginez, on peut perdre la vie. Un membre de la famille qui disparaît gratuitement comme ça, par le fait de la criminalité, de la délinquance, la frustration, elle est importante. Psychologiquement, les gens sont affectés. Au niveau de la société, de manière générale, lorsque, par exemple, surtout à travers les médias, parce que parfois, c'est les médias qui donnent une certaine ampleur à la chose, même si le phénomène n'est pas important, à travers les médias, on l'amplifie. Et les populations qui entendent, par exemple, qu'au niveau de tel quartier ou de tel quartier, on a tué quelqu'un, on a vandalisé un commerçant, alors ça crée au niveau de la société ce qu'on appelle le sentiment d'insécurité. Et le sentiment d'insécurité, quand ça se développe au niveau d'une société, c'est dangereux. Pourquoi ? Parce que les gens ont peur même de se déplacer. Quand on dit par exemple que oui, Karakara c'est un quartier, un nid, comme l'a dit monsieur le commissaire, un nid de bandits, alors à moins qu'on soit obligé, on ne peut pas se hasarder à aller là-bas. Donc ça limite même le déplacement des gens au niveau de certains quartiers dits chauds, par exemple, socialement. Et donc ça, ce n'est pas intéressant. Lorsque, par exemple, par le fait de la criminalité, vous n'exercez pas votre liberté de déplacement, parce que tout simplement vous avez peur de délinquants, ça c'est des choses à revoir au niveau d'une ville, par exemple. Et du point de vue économique, il faut voir par exemple ce que l'État consacre pour le maintien, par exemple, de l'ordre, pour assurer la sécurité des citoyens. C'est un manque à gagner important au niveau de nos États qui consacrent beaucoup de moyens au niveau de la police, au niveau de la justice, au niveau de la prison, pour entretenir des bandits, le plus souvent qui ne sont pas très utiles à la société. C'est un important manque à gagner. Donc les conséquences, elles sont psychologiques, elles sont économiques, elles sont sociales.
À l'âge du conseil de stage, même question. Quelles conséquences entrevoyez-vous sur le développement de la ville?
Moi, je dirais qu'il y a un aspect justement qui a rendu les choses beaucoup plus. C'est surtout les comprimés, les tramoles qu'on dit. Hein. C'est à la portée de tous. À un moment, en tout cas, tout le monde avait ça. Et les enfants, ils annoncent ça et ils utilisent ça. Et effectivement, ils perdent les connaissances. Mais les grandes drogues telles que la cocaïne ou le cannabis. Hein? Oui, oui, voilà, oui, oui. Surtout, nous, en langue, on dit oui, oui. Donc, ces genres de drogues-là, vraiment, ne sont pas à la portée. Mais celles qui sont à la portée, là, le tramol, là, mais les gens partent acheter. C'était vil prix avant. Bon, maintenant qu'on a constaté qu'il y a trop de trafic de ce genre de comprimés, on a essayé de temporiser. Comme on a dit dès au départ que les moyens sont réduits, l'État n'a pas les moyens de faire face. Donc, en même temps, faire face à cela, donner les moyens, recruter le monde proportionnel à la population. La population de Zender est en train de graviter autour de 1 500 000. Alors qu'avant, Zender, c'était 73 000 habitants. Même pas 23 000, on a commencé. Bon, donc si maintenant on a atteint ce stade-là et les moyens n'ont pas suivi, donc ça ne peut pas aller. On sait que les choses sont dures, sont difficiles, mais qu'on essaie de faire plus. Parce que sans qu'il y ait cette quiétude-là, mais rien ne peut marcher comme il se doit. Absolument, pas du tout. Avant, c'était le problème d'eau. L'eau, de nos jours, bon, on a eu la chance que maintenant, on commence à avoir assez de l'eau. Et ça, encore, ça va contribuer certainement au développement. Parce que le manque d'eau, c'était justement le manque de développement. Mais maintenant qu'on a eu, bon, les gens, ils ne font que bâtir, construire. Mm. Bon, ça peut aller.
Mm. Amadou Dankwari, la même question aussi pour vous. Quelles sont les conséquences de la violence pour le développement?
Pour le développement de la ville, surtout, c'est le développement de l'insécurité et la montée en puissance de la paranoïa. Du moins que dans une ville, s'il y a un certain nombre de quartiers que vous ne pouvez pas circuler à une certaine heure de la journée, ça vraiment c'est très dangereux. Et on ne peut pas parler de développement tant qu'il y a le problème sécuritaire. Et là, au sein même d'une ville, il y a des zones où vous ne pouvez pas aller commercer, vous ne pouvez pas aller faire des activités. Là, ça serait très dangereux. Et là, c'est ce qu'on voit dans certains pays où on peut y avoir des quartiers où même la police ne peut pas y pénétrer. Et si on laisse comme ça que ça vienne dans notre pays et particulièrement dans notre ville, ça serait dangereux. Et c'est pourquoi il faut vraiment multiplier ces genres de réflexions pour apprendre à voir le corps sur fléau. Et sinon, le développement ne peut pas se faire tant qu'il y a le sentiment de l'insécurité, tant qu'il y a la population ne se sent pas sécurisée. Tant que la population va toujours avoir la peur de sortir, on ne peut pas parler de développement. Et si on laisse comme ça, Zende risque d'être à la traîne. La conséquence serait très drastique dans l'avenir.
Commissaire, quels sont les défis en matière de sécurisation de nos villes aujourd'hui?
Si on prend la ville de Zender, le premier défi que moi je peux énoncer, c'est surtout la lutte contre le phénomène FADA. Et ça, cette lutte ne peut pas relever seulement les efforts des seuls FDS. Comme on a coutume à dire, la sécurité, c'est une affaire de tous. Les FDS font leur partition, à la population aussi de faire sa part. Le fait de dénoncer un crime n'est pas un tabou. Mais quand la personne dénonce aujourd'hui un fait, on le traite d'espion. S'il y a un petit dealer qui vend sa drogue, si un des parents ou un des sages du quartier décide de le dénoncer, on dit qu'il complote avec la police. Il faut que les gens changent de mentalité. C'est ça qu'il faut. Mais tant qu'on laisse, on voit les infractions se commettre à longueur de journée et que personne n'est à mesure de dénoncer. Mais là, il y a problème. C'est vrai, l'État fait tout son effort en matière de sécurisation. L'État met les moyens roulants à la disposition de ses unités. Le personnel. En 2017, Zender, au niveau de la ville de Zender plutôt, on a deux unités. Le commissariat central, mais aujourd'hui, nous sommes allés jusqu'à 7. Donc, il y a un effort qui a été fait. Il y a des commissariats de proximité qui ont été créés dans toutes les communes. Mais le changement de mentalité n'a pas suivi. Et ça, c'est peut-être à travers ce genre de forum qu'on peut amener la population à prendre conscience de l'état dans lequel nous sommes et que chacun puisse jouer sa part.
Quelle contribution cherchez-vous auprès donc de la population afin de mener à bien votre mission?
Car la première contribution qu'on cherche, c'est d'abord la collaboration. Rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, le cas d'extrémisme violent n'existe pas à Zender. Notre premier problème, c'est quand même ce phénomène de FADA. Et si on arrive à venir à bout de ce phénomène, mais Zender sera une ville tranquille. Dans le passé, il y a eu des actions qui ont été entreprises dans ce sens-là. Bon, malheureusement, ces acteurs-là ont relâché. Et parce que, je le dis, c'est surtout la société civile qui a beaucoup joué dans la lutte contre ce.
À l'âge du Conseil de Sages, des groupes de jeunes volontaires rémunérés avec des cotisations des ménages communément appelés Mbanga ont contribué à un moment donné à réduire donc la délinquance en dissuadant les malfrats. Pensez-vous que cela puisse marcher aujourd'hui?
Moi, à mon avis, ça ne peut pas marcher pour la simple raison qu'on ne leur a pas donné l'éducation nécessaire. Parce qu'un Mbanga, quand il trouve un moyen de s'obtenir quelque chose, il va le faire. Or, s'il a eu une éducation professionnelle qui lui permet justement d'appuyer ces gens-là, ben là, il éviterait à faire certaines choses. Mais sinon, si on les laisse, non, ça, les Bangas, non. Et eux aussi, parfois, les Bangas, ils incurgent les tramoles.
C'est des anciens bandits.
Ils ne se contrôlent plus.
Et effectivement, pour certains, ce sont des anciens bandits aussi.
Ouais, bon.
Ahmad Dankwari, quelles conséquences le fait de se constituer en groupe d'autodéfense peut-il présenter?
Moi, je suis contre l'autosécurisation. L'autosécurisation amène à toute une communauté qui l'accepte vraiment à des meurtres et à des crimes. Et j'ai comme des règlements de compte, effectivement. J'ai comme l'impression, quand vous prenez le Nigeria, il suffit que quelqu'un dise « Ah, il a insulté le prophète. Ah, un voleur. » Vous allez voir, on va le lyncher, on va le brûler. C'est ça le problème de l'autosécurisation. La sécurité doit avoir celui qui va l'exercer. Et celui qui est censé l'exercer, c'est celui qui est investi du pouvoir de puissance publique. Je dis, c'est l'État. Mais si on laisse la communauté s'auto-sécuriser, ça serait dangereux, ça serait vraiment de l'anarchie. Et c'est pourquoi moi je suis contre toujours l'auto-sécurisation. C'est la question de Mbanga si a nécessité de faire recours à ça. Mais les Mbanga qui avaient existé, c'était des Mbanga qui avaient quand même une certaine morale et une certaine moralité, même si par ailleurs c'était des anciens bandits. Vous n'allez pas voir un Mbanga investi maintenant contourné pour voler. Mais cette fois-ci, la société est tellement, l'éducation de la société est tellement désagrégée, la morale même y est encore, et on ne peut pas y avoir vraiment des gens, des Mbanga dignes de foi, qui vont essayer de chercher à sécuriser, et vraiment, ou à même accompagner la police. Sinon, on risque de retourner dans une sorte d'anarchie, et ça ne va pas grandir la communauté, ça ne va pas développer la ville, au contraire, et la régresser.
Alhaji Omar Issa du Conseil des Sages, comment trouver une solution aux violences intra-urbaines grandissantes?
Il faut réellement les moyens. Qu'on le veuille ou non, il faut les moyens. Puis ce n'est pas les quelques unités qu'on a de police municipale là qui vont pouvoir maîtriser les choses qui se passent à Zatner. Il faut vraiment les augmenter d'une part, et d'autre part, il faut les prendre vraiment sans complaisance. C'est-à-dire, il ne faut pas prendre les frères, les parents, amis et connaissances pour les mettre là. Mais ils ne feront pas ce qu'on attendait. Mais si c'est dans un grand tas qu'on va passer une sorte de décès, on va recruter. Là, ils savent pourquoi ils sont venus et ils feront le travail. Mais si je sais que je suis le cousin de celui qui, c'est clair que si on va mettre, je vais aller à la maison lui dire il est agaçant, il va mettre, ça c'est clair. Et là, les choses ne vont pas. Et si jamais il lui parle, lui il va voir, maintenant c'est le patron même qui me dit. Alors ça ne peut pas faire marcher les choses. Mais il faut vraiment augmenter les moyens et il faut qu'ils fassent leur travail, eux, les élus locaux. Si il ne faut pas le travail, comment tu vas aller payer les frais de salubrité là, si vraiment on ne fout rien? Il faut que tout le monde y mette du sien pour que nous arrivions à cela.
Ahmad Dankwari de la société civile, quelles solutions préconisez-vous pour résoudre efficacement les violences qui sont enregistrées fréquemment?
Donc on a quand même énuméré les causes. On dit toutes causes produisent les mêmes effets. Maintenant, c'est de voir comment solutionner tout ce qu'on a cité en termes de causes pour pallier à ces problèmes. Maintenant, en ce qui concerne les problèmes liés à l'explosion démographique, moi, je crois que c'est une politique consentie et avec l'ensemble de la population, mais pas une politique imposée. Sinon, la politique de planning familial, c'était des pratiques de politique imposées. C'était des politiques qu'il faut faire, mais il faut impliquer la population, leur montrer d'abord en impliquant les leaders religieux dans leur prêche d'intégrer la question de l'explosion démographique. Moi, je crois avec ça, ça peut aller. En ce qui concerne la sécurité, c'est un bien commun. La sécurité, c'est pas l'affaire uniquement des forces de défense et de sécurité. La sécurité, c'est une affaire de tout le monde. Au lieu de mettre les Mbanga, autant de mettre des petits comités de vigilance dans certains quartiers à risque. Et si on met les comités de vigilance, ça va permettre à la population d'abord de se sécuriser en dénonçant. Pas de se sécuriser en agissant, mais de se sécuriser en dénonçant. En dénonçant si, quand même, il y a un petit comité d'éveil. Personne ne peut rentrer dans notre quartier, commettre des forfaitures sans qu'il ne soit dénoncé. Si on voit un étranger qui vient dans notre quartier, on va savoir d'où il vient et qu'est-ce qu'il est venu faire. Et là, avec ça, moi, je crois qu'on va travailler avec ceux qui sont investis de la puissance publique et ça va réduire quand même les cas de criminalité, les cas de délinquance qu'on constate dans la ville. Mais si on laisse la population comme ça, vraiment la police ou l'État d'une manière générale ne peut pas gérer et la population ne peut rien faire. Donc il faut que tout le monde soit impliqué. La sécurité, c'est un bien commun et il faut que tout le monde y mette la main dans la pâte, comme on dit, pour que vraiment des solutions soient trouvées afin que notre ville soit une ville viable, afin que notre ville soit une ville prospère. Quand vous prenez Zander 20 ans avant, vous allez voir que maintenant, elle est devenue une grande ville. Une grande ville où les quartiers jaillissent. Et ça, c'est dit à un certain nombre de choses que tout le monde l'a évoqué ici. Mais si on laisse, on reste comme ça et rien n'est fait, donc dans 20 ans, Zander sera comme une ville dans le Brésil où vraiment il y a des quartiers où personne ne peut rentrer. Et donc là, c'est maintenant qu'il faut vraiment réfléchir avec les chercheurs, avec l'État, avec tout le monde, pour vraiment que Zander soit une ville viable. Et pas Zander seulement, c'est même à l'image du pays. Quand vous prenez d'autres villes, comme Niamey, c'est même pire, puisque les vols à l'arraché, maintenant Niamey, c'est depuis. Et nous ici, à Zander, c'est rare même de voir les vols à l'arraché. Mais à Niamey, c'est monnaie courante. Mais si on ne fait rien, on risque d'avoir beaucoup de vols à l'arraché et même beaucoup de vols la journée et avec effraction.
Le spécialiste, docteur Abdouharou, quelle solution définitive pour mettre fin aux scènes de violence qui sont enregistrées?
Bien, déjà un certain nombre donc de solutions sont déclinées ou proposées par mes prédécesseurs là. Mais un phénomène comme la délinquance, comme la criminalité, pour y faire face, il faut d'abord connaître le phénomène. Il faut connaître le phénomène sur le plan statistique. Parce que ça engage des moyens. Du point de vue statistique, connaître donc l'ampleur du phénomène, de la mesure où ça demande donc un certain nombre de moyens. Moyens humains, moyens financiers. Donc la connaissance des statistiques peut permettre donc d'agir conséquemment en rapport donc avec ces statistiques-là. Premier aspect. Deuxième aspect, il faut aussi connaître le phénomène dans ses causes. Comme l'a dit mon ami de la société civile, lorsque par exemple on identifie clairement les causes d'un phénomène, maintenant on saura où agir. Mm-hmm. Nous avons dit par exemple à travers nos propos là que les causes c'est du point de vue social, c'est du point de vue économique, c'est du point de vue culturel, voilà. Maintenant il faut que, et pour limiter le phénomène, parce qu'il faut limiter, et criminalité zéro là c'est extrêmement difficile, parce que en général il y a une certaine corrélation entre croissance urbaine et croissance de la délinquance. Plus une ville augmente en superficie et en démographie, la délinquance suit également, si on ne prend garde. Maintenant, la meilleure manière, parce qu'il faut faire la prévention, la meilleure manière de limiter le phénomène de criminalité, le phénomène de délinquance, c'est la prévention. Et cette prévention-là, la meilleure prévention, c'est la répartition plus ou moins équitable des ressources nationales au niveau du pays. Lorsque, par exemple, du point de vue de l'éducation, il y a des disparités. L'accès à l'éducation, par exemple, ce sont les enfants des familles aisées, des familles riches qui accèdent à une formation de qualité, alors que les pauvres sont laissés à eux-mêmes. Il y a des équilibres de ce point de vue-là. Donc, il faut que, dans la répartition des ressources nationales, que l'accès à l'éducation soit équitable, l'accès à l'emploi soit équitable, l'accès à la santé soit équitable. Donc, tant qu'il va y avoir des fossés entre, par exemple, enfants de riches, enfants de pauvres, c'est difficile de lutter contre la criminalité. Tant qu'il va y avoir ces déséquilibres-là. Et la meilleure prévention, c'est d'agir sur la répartition des ressources nationales. Pour que, par exemple, au niveau de l'éducation, que les enfants de pauvres-là aient aussi accès à l'éducation de qualité, santé de qualité, logement décent. C'est en agissant sur ces questions-là qu'on peut minimiser le phénomène. Et comme on l'a dit ici, par exemple, tout le monde a reconnu que la lutte contre le phénomène de délinquance, de la criminalité, ce n'est pas seulement une affaire de la police, c'est une affaire de tout le monde. C'est une affaire de tout le monde. Même les comités de défense de quartier dont on a fait cas tout à l'heure là. Si, par exemple, au regard des problèmes qui sont les nôtres, si les comités de défense sont recrutés sur des bases objectives, en agissant sur la moralité des membres de ces comités-là, et en les mettant sous l'encadrement de la police, ils peuvent
ne serait-ce que provisoirement, ils peuvent jouer un rôle au niveau des quartiers, le temps que l'État trouve les moyens d'avoir donc suffisamment de policiers, suffisamment de... Voilà, on peut encadrer les comités de défense pour qu'ils jouent le rôle qu'on veut qu'ils jouent au niveau de la société. Mais tant que c'est des comités tels qu'on a connus par le passé, parce qu'eux-mêmes, ils veulent que l'insécurité continue pour qu'ils puissent continuer à survivre. C'est ça. Parce que moi, le cas de Niamey que j'ai étudié, on s'est rendu compte que au sein des comités de défense des quartiers, là, il y a des anciens détenus de la prison civile. Donc, ils n'ont aucun intérêt à ce que l'insécurité au niveau de la ville de Niamey s'arrête ou soit vaincue de manière définitive. Eux-mêmes, ils trouvent intérêt à ce que cette insécurité-là soit entretenue pour qu'ils puissent manger. Parfois, c'est eux-mêmes qui entretiennent la sécurité. Donc, il serait bon, dans ce cas précis-là, pour que ces comités-là jouent leur rôle, il faut qu'ils soient bien encadrés. Il faut que, de leur choix, que la population intervienne, parce que la population, par exemple, connaît des gens qui vivent avec elle, qui sont capables de faire ce travail-là, et une fois choisis, on les met sous l'encadrement de la police. Ils peuvent jouer un rôle de sécurisation, ne serait-ce que temporairement. Le phénomène d'insécurité, de la délinquance, ça a besoin également d'être étudié sur le plan scientifique. Et de la même manière que nous sommes d'accord que ce n'est pas seulement une affaire de la police, même sur le plan de la recherche, on ne doit pas laisser le phénomène de la criminalité, de la délinquance, seulement dans les mains de la police ou dans les mains des criminologues. Normalement, parce que il y a des causes qui sont croisées. Imaginez, nous avons ici parlé des causes sociales, des causes économiques, des causes culturelles, etc., etc. Donc, dans le cadre de l'étude du phénomène de la criminalité, là, il faut également faire intervenir diverses disciplines. Parce que la sécurité, comme on a dit, c'est une affaire de tout le monde. Ça veut dire quoi? La police, les criminologues, la justice, les historiens, les géographes, les sociologues, les anthropologues doivent être convoqués, voilà, pour réfléchir sur les questions de la sécurité en lien avec la délinquance, avec la criminalité. Lorsque, par exemple, vous avez ce beau monde-là qui réfléchit sur une thématique, certainement que on peut cerner le problème et on peut proposer des solutions qui peuvent aider à minimiser le phénomène. Oui.
Nous sommes à la fin du forum d'aujourd'hui sur le thème recrudescence de la délinquance dans la ville de Zender. On note une baisse de l'autorité parentale due elle-même à la paupérisation de la population. On note également des problèmes de l'investissement de l'État dans divers secteurs. Parmi les causes toujours, la loisivité et la promixité. Nous avons la responsabilité qui est partagée entre plusieurs acteurs. La délinquance a des conséquences psychologiques, sociales et économiques. Le combat contre les FADA et donc l'équité sont quelques solutions qui sont proposées ici. Nous étions avec Elhaj Oumar Issa, le président du conseil de sages de Zender. Nous avons également avec nous un spécialiste, Dr Abdou Harou, géographe urbain, spécialiste donc des questions de la délinquance. Également avec nous le commissaire Roua Hama Abdourahman, il est le commissaire de la police judiciaire de Zender. Et enfin, nous avons Amadou Dankwari, sociologue et acteur de la société civile. Merci et au revoir.